Généralement, lorsque l'être humain s'assoit sur un siège qui est situé derrière un volant, il se passe un truc assez unique. Il se transforme. Immédiatement, il pense qu'il sait conduire, et c'est souvent bien plus frappant chez l'humain de sexe masculin. On ne peut rien faire contre. On est calibré comme ça. On nous donne un volant et on pense qu'on sait. Direct derrière, on est certain que l'on sait prendre un virage, qu'on sait faire un freinage appuyé et que c'est pas ce tocard d'Hamilton qui va nous expliquer comment on fait. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent un tant soit peu à la F1, on a tous une opinion sur le pourquoi du comment Vettel est nul. C'est vrai quoi, une demi-seconde plus long qu'une Mercedes, faut vraiment être nul. Nous, on serait au volant, ça serait réglé depuis longtemps, parce que vous, je ne sais pas, mais moi, je sais conduire. Enfin, en ce qui me concerne, je pensais que je savais conduire. Ce matin, je suis arrivé sur le circuit du Spielberg. Le but de cette journée était de faire des tours de circuit avec une F488 Pista de l'année dernière. Alors, en général, quand on dit l'année dernière, c'est que c'est nul. Surtout dans ce bas monde où si t'as pas l'iPhone X, t'es perdant d'avance. Alors, imaginez une seconde, une Ferrari qui a plus de 12 mois et plus de 20 000 km. Je vous dis même pas. C'est vite vu. J'ai carrément hésité à y aller. Je vous passerai les détails sur la description touristique de l'Autriche, si ce n'est que je les soupçonne de repeindre leur maison tous les 6 mois, en même temps qu'ils repeignent leur gazon toutes les 3 semaines, comme dans le canton de Berne. Si je devais décrire le pays en un mot, je dirais que c'est propre. Et en plusieurs mots, je dirais qu'à côté de l'Autriche, la Suisse est la grande banlieue marseillaise en termes de propreté. Le team Ferrari qui nous encadrait ce matin-là nous a immédiatement emmenés dans les stands du circuit. Un stand vide avec une paroi en grillage et une F488 Pista préparée pour le circuit juste derrière, comme si elle restait inatteignable et inaccessible. Mais là n'était pas la question. Nous étions là pour récupérer notre équipement de pilote. Chaussures de pilote, occasion unique de mettre des baskets Puma sans avoir l'air ridicule parce que tu es vraiment dans une voiture de course. Gants ignifugés, sous-vêtements ignifugés, cagoule et la fameuse combinaison qui, paraît-il, va à tout le monde. Par une conscience journalistique au-delà de l'imaginable, je me sens obligé de vous narrer l'essayage, bien qu'il ne me mette pas en valeur. Il faut donc savoir que ces combinaisons sont taillées sur des types qui ont le physique de Lewis Hamilton. Et si vous me mettez à côté de Lewis Hamilton, nous sommes à peu près aussi proches l'un de l'autre qu'une bouteille de Perrier et Lewis Hamilton. À partir de là, essayez d'enfiler une combinaison de pilote à une bouteille de Perrier d'1m70 et 1, je tiens particulièrement au et 1, c'est tout ce qui me reste, et cela vous donnera lieu à une scène qui restera probablement dans les annales cinématographiques autant que celle de la crêpe au sucre. Une fois ces comparaisons alimentaires terminées, et une fois que nous pûmes trouver une combinaison qui correspondait à mes mensurations athlétiques, l'équipe qui nous encadrait nous emmena au bord de la piste pour de vrai. À ce moment très précis, alors que tu es boudiné dans ta combinaison qui a été taillée pour quelqu'un d'autre, et que l'on te présente le gars qui va t'emmener faire un tour dans cette espèce de missile sol-sol bardé de publicité, tu te demandes vraiment si t'as bien fait de venir, et que tu n'aurais pas mieux fait de rester devant ta télé à hurler sur Bottas ou Vettel pour leur expliquer comment prendre un virage. T'aurais eu l'air tout autant ridicule, mais il y aurait au moins eu moins de monde autour. Après avoir observé plusieurs de mes camarades de jeu monter tour à tour dans la F488 pour aller faire leur tour de piste, je constatais assez rapidement que les sourires éclatants qu'ils offraient avant de monter dans le siège baquet laissaient place à une moue un peu plus dubitative lorsqu'il revenait. Une moue qui oscillait entre le mal des montagnes et le type qui a mangé des huîtres pas fraîches et qui fait des efforts pour les garder à l'intérieur de son corps. C'est à ce moment très précis que mon ego surdimensionné prit le relais afin de ne pas me dégonfler, surtout quand le gars qui gérait les entrées et les sorties de la voiture de piste en piste prononça mon nom. Pendant un bref instant, je songeais à faire celui qui n'a rien entendu juste avant de sprinter afin de m'enfuir et disparaître pour de bon. Lâchement, je me suis dit que ça se verrait et que ça ferait mauvais genre. Si l'enfilage de la combinaison devrait rentrer dans le top 20 des scènes humoristiques sur Facebook, mon entrée et ma sortie de la F488 auraient largement pu rentrer dans le top 5. Merci aux photographes et aux caméramans présents ce jour-là de m'avoir épargné l'humiliation, ce qui m'aurait forcé à changer de nom et à disparaître à l'étranger. À ce stade-là de mon histoire, si vous n'avez pas encore compris que j'ai quelques kilos de trop et que se glisser dans le siège baquet d'une voiture de sport devient assez rapidement un sport extrême, je ne peux plus rien pour vous. Imaginez, vous devez enjamber l'arceau de sécurité, vous plier en deux pour rentrer vos fesses dans la voiture et réussir à rentrer votre tête ensuite, puis ramener la seconde jambe par-dessus l'arceau alors que vos fesses sont déjà coincées dans le baquet et que sur votre tête vous avez un casque, que sur vos épaules vous avez un HANS. Le HANS, c'est le système qui est censé vous empêcher de vous briser les cervicales et de finir définitivement dans un baquet le reste de vos jours. Le HANS est une fabuleuse invention, mais elle n'améliore pas votre flexibilité lors de l'entrée dans le siège. Finalement, après que deux mécaniciens eurent fait pression sur mes épaules et mon casque afin de me pluguer dans la voiture tel un bloc de Lego, je me retrouvais sanglé dans mon siège avec un harnais qui me serrait de partout et qui me laissait assez clairement entendre qu'après un tour dans cette essoreuse, je n'aurais plus jamais d'enfant. Dans l'hypothèse peu probable où j'arrive encore à respirer durant les deux prochaines minutes. J'ai les photos de ce moment-là, mais je vous en ferai grâce, tant à vous qu'à mon ego, afin de m'éviter des longues heures de psychothérapie. À peine installé dans mon siège, le pilote me serra la main et avec des yeux rieurs qui laissaient supposer qu'il n'avait pas raté un instant de la scène que je viens de vous narrer. Puis il enclencha la première avec les palettes au volant. Immédiatement, je me demandais pourquoi je ne m'étais pas tiré en courant alors que je le pouvais encore. Dans la ligne des stands, la vitesse est limitée à 100 km/h, ce qui fait que pendant quelques secondes, vous vous imaginez que ça va encore. Puis à l'instant très précis où la Ferrari franchit la ligne des stands, vous comprenez que la dimension dans laquelle vous êtes n'est plus la même. Sur le circuit du Spielberg, la sortie des stands est en montée, entre deux glissières de sécurité qui ne laissent que très peu d'espace entre la voiture et la glissière, ce qui n'empêche aucunement mon chauffeur Uber du jour de monter à fond de 5e ou de 6e avant d'entrer sur la piste. Peu importe la vitesse enclenchée, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va très vite. Mais pas le très vite du style « je fais le malin sur l'autoroute », non, le très vite qui vous fait vous demander si c'était pas mieux d'aller faire un article sur le curling. Les moments qui viennent ensuite ne sont qu'une longue accélération jusqu'au bout de la ligne droite où vous vous rendez compte subitement qu'il a complètement oublié de freiner. Ou alors que le pilote est tombé dans le coma et que vous allez mourir dans un déferlement de bruit et de fureur et de caoutchouc fondu. Et à ce moment très précis, le type assis à côté de vous fait un espèce de mouvement qui donne l'impression que tout son corps est impliqué et se jette sur les freins. En fait, c'est de là que vient l'expression « se jeter sur les freins ». On a l'impression que le type met tout son corps en action pour freiner sa voiture qui se rapproche dangereusement de ce qui ressemble furieusement à la fin de ma vie. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que la voiture freine et parvient même à prendre un virage à toute vitesse. Alors que vous êtes pendu dans votre harnais qui est en train délicatement de vous sectionner les artères fémorales et de vous compresser les poumons de manière tellement forte que soudainement vous vous dites que faire des choses comme respirer par exemple, c'est vachement surfait. La suite de l'expérience se résume avec un enchaînement d'accélération et de freinage, de virages sur les vibreurs qui laissent penser que la voiture va se casser en deux, le tout dans un bruit effarant et surtout la prise de conscience que prendre un selfie avec mon iPhone est complètement débile. Lors du retour au stand, je me fais encore une dernière frayeur alors que j'étais en train de marmonner mon motto du jour dans ma cagoule « Vivant, je suis vivant, vivant, je suis vivant ». La glissière de sécurité qui sépare la ligne droite d'arrivée la ligne des stands fait penser à la lame d'un couteau. J'imagine immédiatement la voiture se couper en deux, mais non, visiblement, mon pilote sait ce qu'il fait. La suite de cette expérience se résume à une autre humiliation lors de ma sortie de la voiture, une nouvelle envie de me nourrir de salade verte sans huile et d'eau pour le reste de ma vie, et l'énorme prise de conscience qu'après 30 ans de permis de conduire, moins les quelques retraits classiques pour faire plaisir aux autorités de mon canton de naissance, je ne sais pas conduire. Lors de mon voyage retour, je me consolais en me disant que je n'étais pas le seul, et de loin, et que bien des petits malins avec des Audi RS3 ou des Impreza feraient bien d'aller se faire secouer là-dedans, histoire de voir ce que c'est que de piloter. Pour conclure, vous verrez dans les photos qui accompagnent cet article que j'ai l'air assez décontracté et rassuré. C'est surtout que les photos ont été prises après mon expérience, quand je prends pleinement conscience que la vie est quand même pas mal.